nzamba
nzambira samirana
Le journal avec Josephine Jones Bundimana.
Radio Inzamba Agateka Kawe, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Les titres de ce vendredi 7 octobre 2022. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU renouvelle le mandat du rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Dans ce journal, les activistes des droits de l'homme en exil expriment leur satisfaction. Les bureaux de change sont de nouveau autorisés à fonctionner après presque 2 ans de fermeture, décision annoncée par la Banque centrale. 8 personnes ont péri dans un accident de circulation, 10 d'autres blessés. Le drame s'est produit hier jeudi à Kirundo.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Les fonds reçus des transferts instantanés internationaux ne sont plus soumis au règlement en monnaie locale. Annonce faite ce vendredi par le gouverneur de la Banque centrale du Burundi. La BRB entame une série de réformes pour stabiliser l'économie burundaise, selon toujours Dieudonné Mulengera Ntwari. Occasion d'annoncer également que la mesure prise en 2020 portant retrait d'agrément des bureaux de change est levée. On l'écoute. Il s'exprimait au cours d'un point de presse.
Dans le souci de renforcer la stabilité macroéconomique, la Banque de la République du Burundi entame une série de réformes en vue de moderniser sa politique monétaire. Pour y arriver, la Banque, en collaboration avec les parties prenantes, a mené des analyses approfondies sur la situation macroéconomique du pays et propose des voies de modernisation de la politique monétaire qui passera par le calibrage de la politique du taux de change. Partant de ce qui précède, la Banque de la République du Burundi communique au public ce qui suit. La Banque de la République du Burundi lève à partir de ce jour les restrictions sur les conditions de l'agrément des transferts instantanés reçus de l'étranger, introduites en date du 16 mars 2020. Désormais, les fonds reçus de transferts instantanés internationaux ne sont plus soumis au règlement en monnaie locale. Les bénéficiaires de ces fonds ont la latitude de les percevoir en devises ou de les transférer sur leur compte en devises. Secondo, la mesure prise le 7 février 2020 portant le trait d'agrément des bureaux de change est levée. Les anciens opérateurs dans ce secteur et toute personne voulant y opérer sont invités à se faire enregistrer auprès de la Banque centrale. L'agrément sera conditionné par la signature d'un acte d'engagement sur le respect du cadre réglementaire des bureaux de change.
À ce sujet, l'ONG Parole et Action pour le réveil des consciences estime que ces mesures de la Banque centrale ne suffisent pas pour lever la question liée aux devises. L'organisation demande plutôt que les devises qui entrent à la BRB soient bien contrôlées. Écoutez Faustin Dikoumana, le président de la PARSEM.
Il y avait un problème de devises liées aux ressources potentielles de ces devises, notamment les ressources d'exportation, les devises de la coopération, d'éventuels emprunts à l'extérieur, ou aussi l'entrée des investissements directs sans VMM, le tarissement du secteur du tourisme. Mais ce qui nous avait surpris, ce sont des mesures qui avaient été prises allant à l'encontre de la gestion responsable d'une politique monétaire digne de ce nom. On avait vu que les mesures qui avaient été prises étaient de nature à favoriser une poignée d'hommes de faire une même mise sur la gestion des devises pour leur intérêt personnel. Ce qui a vraiment causé un tort énorme à l'économie nationale, même à la confiance que les partenaires économiques et les bailleurs d'offres avaient passé dans notre pays. Donc, j'imagine que c'est un début de réforme pour quand même que ce secteur soit beaucoup plus assaini. Et je dois dire que si on voit comment ça se passait, beaucoup de gens préféraient même envoyer des devises via les pays étrangers à l'extérieur. Les flux des devises des courants des entrées, des partenaires particuliers, des individus, des opérateurs économiques comme les opérateurs économiques des pays voisins qui entrent au Burundi, il y avait eu un assèchement de ce canal d'approvisionnement en devises. Ça se voyait. Donc, je ne dirais pas que c'est la fin du problème lié au manque de devises, mais c'est un début de réforme qui vont permettre à ce que ce canal d'autres devises qui entrent au pays, outre les devises qui passent naturellement de la banque centrale, puissent entrer dans la liberté. Mais aussi, il faut apprendre justement à contrôler les choses, à auditer. Le gouvernement devrait auditer ceux qui ont trempé dans la loi des devises ces derniers temps, qui ont causé un tort à l'économie nationale.
Le mandat du rapporteur spécial sur le Burundi vient d'être renouvelé pour une année. Le vote a eu lieu à la fin de la 51e session du Conseil des droits de l'homme qui se tenait à Genève. La résolution a été adoptée avec 22 voix pour, 12 voix contre et 13 abstentions. Satisfaction chez les défenseurs des droits humains burundais en exil. Pour Maître Armel Niyongere, cette victoire montre l'attention que le monde porte sur ce qui se passe au Burundi. Suivez.
Nous sommes satisfaits de l'adoption de la résolution renouvellera le mandat de la portée spéciale sur le Burundi. Cette résolution vient d'être adoptée avec une marge plus importante que l'an dernier. Et aujourd'hui, et les pays qui ont voté oui sont 22 et ceux qui ont voté non sont 12. Et puis, il y a les pays africains comme la Gambie qui a voté de façon claire sur la base de principes. Ainsi, le Malawi est passé de non l'année passée à l'abstention aujourd'hui. Donc, cela montre que notre plaidoyer a tout de même fonctionné. Et un certain nombre d'États africains a refusé de donner un bras-seng au gouvernement burundais.
Maître Armel Niyongere est l'un des défenseurs des droits de l'homme burundais en exil. L'action des chrétiens pour l'abolition de la torture à Kate Burundi s'engage à aider les victimes des violations des droits humains et à plaider pour leur cause dans des juridictions internationales dont l'État du Burundi a reconnu leurs compétences. Cela ressort d'une déclaration que l'organisation a publiée hier jeudi. ACAT Burundi rappelle à l'État du Burundi son obligation conventionnelle de coopérer avec les organes des Nations Unies de protection des droits de l'homme. On écoute Maître Jean-Claude Niburumusi du département juridique à ACAT Burundi.
Dans cette déclaration, nous revenons d'abord sur le contexte d'insécurité et d'impunité qu'a connu le Burundi depuis que le président Pierre Nkurunziza a brigué un troisième mandat en violation de l'accord d'Arusha et de la constitution qui était en vigueur en 2015. Et que c'est dans son contexte d'insécurité qu'ACAT Burundi s'est engagé non seulement de dénoncer les violations continuelles des droits humains, mais aussi à appuyer les victimes pour accéder à la justice en saisissant les mécanismes internationaux de protection des droits humains, dont par exemple le Comité contre la torture ou la Commission africaine des droits de l'homme, ce qui est le groupe de travail sur la détention arbitraire. ACAT Burundi se réjouit d'ores et déjà des dossiers des victimes qu'elle a soumis aux organes de traité et certains d'entre eux ont trouvé une issue. À titre d'illustration, revenons sur l'affaire portant le numéro 952/2019 qui est inscrit dans les registres de la Comité contre la torture. Cette affaire oppose le général Sylvain Ndahiru qui est à l'État du Burundi. Le Comité contre la torture a constaté que, à travers ses conclusions, qu'un acte de torture a été commis sur le plaignant et conséquemment demande une enquête impartiale pour suivre les auteurs et une réparation effective de la victime. Et même si la victime n'est plus, la réparation devrait être bénéficiée à la famille de la victime. Un autre cas emblématique est celui du groupe de travail sur la détention arbitraire qui a aussi émis plusieurs recommandations à l'État du Burundi sur plusieurs affaires relatives à la détention arbitraire. Si on peut rendre comme illustration les cas des prisonniers poursuivis dans l'affaire d'assassinat du général Adolphe Chimiriman. ACAT Burundi constate également que l'État du Burundi manifeste toujours son refus de collaboration avec les organes dont il a pourtant reconnu la compétence en se gardant d'une part de répéter aux différentes communications ou à opposer une fin de non-recevoir. Il a eu le courage quand même de répondre. En conséquence, les conclusions et les recommandations de ces organes qui sont toutes favorables aux plaignants ont été notifiées à l'État du Burundi, mais ce dernier n'a pas donné suite. De ce fait, les prisonniers déclarés détention arbitraire par le groupe de travail sur la détention arbitraire scrupule toujours en prison. ACAT Burundi rappelle encore une fois à l'État du Burundi de respecter ses engagements internationaux en collaborant avec les organes de traité mis en place pour le respect des droits de l'homme.
Jean-Claude Niburumusi de la ACAT Burundi. La suite de cette édition dans un instant.
Inzamba.
Sécurité routière à présent, 8 morts et 13 blessés hier jeudi en début de soirée dans un accident de la route. Cela s'est produit au centre de négoce de Kabuyenge en commune Gambarangwe dans la province Kirundo selon des témoins. Les freins d'un camion appartenant à la société chinoise Stekol ont lâché et il a percuté une foule qui se trouvait au bord de la route. Le camion a fini sa course dans une maison occupée selon une source administrative. Où va la somme de 1000 francs burundais demandée à chaque agriculteur au moment de la paye? Une enquête est en cours à l'OTB Guegura dans la province de Kayanza pour connaître la destination de cet argent. La question avait été soulevée lors de la dernière conférence publique des porte-parole des institutions. Les cultivateurs de thé craignent un détournement de cet argent. On fait le point avec Eddie Claude Nina Hasgwe.
Tout a commencé le 30 septembre de cette année lors de la dernière conférence publique des porte-parole des institutions tenues à Kayanza. Un cultivateur de thé avait posé la question de savoir où va le montant de 1000 francs burundais retranché à chaque cultivateur le jour de la paye.
Nous les cultivateurs du thé, le jour de la paie, quand nous arrivons au niveau des hangars, on se rend compte qu'on nous a retiré 1000 francs chacun et ils disent que c'est une contribution au développement. Nous avons des doutes que cet argent contribue réellement au développement parce qu'on nous donne des quittances de paiement. Pourtant, quand nous avons contribué à la construction du bureau provincial, on nous donnait bel et bien des quittances.
Le porte-parole du ministère ayant l'agriculture dans ses attributions, Clément Ndikouma Sabo, avait répondu que son ministère n'était bien informé de la question, mais que tout sera fait pour avoir la lumière et que des mesures appropriées seront prises.
Je vous dirai qu'au niveau du ministère, on va se pencher sérieusement sur la question. On va entrer en détail pour savoir comment cette question se présente réellement. Et puis des mesures seront prises pour l'intérêt du cultivateur et du pays en général.
Nos sources au sein du personnel de l'OTB, Guegula, nous informent qu'aussitôt le gérant de l'usine a convoqué le 3 octobre tous les cultivateurs de sa circonscription. Il leur aurait demandé de ne plus parler de la question et que cet argent ne sera plus retranché. Les mêmes sources disent que deux jours après le 5 octobre, la direction générale de l'OTB basée à Bujumbura a réuni tous les gérants des usines et les chefs des plantations pour en savoir plus. Le personnel de l'usine OTB Guegula dut attendre les résultats de cette enquête. Vous saurez que la contribution de 1000 francs est retranchée depuis 2015 et que le montant de ces contributions s'évalue aujourd'hui à 1 milliard de francs burundais selon les mêmes sources. Nous avons cherché le responsable de cette usine pour qu'il s'exprime sur la question mais sans succès.
Venons-en à la grogne des conducteurs des véhicules en mairie de Bujumbura. Ces derniers dénoncent des tricheries de la part des pompistes accusés de modifier les doses lors de la distribution du carburant sur les stations-service. Ces conducteurs demandent au bureau burundais de normalisation et de contrôle de qualité BBN de mettre fin à cette fraude. Le point avec Georges Nimenya.
Certains des conducteurs des véhicules dans la capitale de Bujumbura font savoir que ce phénomène est observé ces derniers jours. Les pompistes sur les stations distribuent une quantité qui ne convient pas au montant payé.
Tu peux demander 20 litres et le pompiste vous serve 18 litres seulement, sans vous en rendre compte. Pour le découvrir, nous qui utilisons les taxis, la prochaine occasion nous nous rendons à une autre station et le carburant dure longtemps cette fois-ci. On utilise aussi une bouteille en plastique de Kinju qui contient normalement 1 litre et demi. Alors, quand le pompiste vous sert, la bouteille manque une certaine quantité pour remplir, alors que vous avez payé pour 1,5 litre.
Ces conducteurs de véhicules demandent au bureau burundais de normalisation et contrôle de la qualité BBN de visiter les stations pour vérifier des cas de magouille.
Nous demandons au bureau burundais de normalisation et contrôle de la qualité, BBN, de se rendre dans les stations-service pour vérifier ce phénomène. Pour nous aider, nous les conducteurs, l'État devrait contrôler que les pompes de distribution des carburants remplissent les conditions.
À ce sujet, la radio Inzamba Gatia Kawe a essayé de joindre par téléphone les responsables du département chargé de contrôle de la qualité BBN, mais sans succès.
Et puis cet appel lancé par des militaires handicapés suite aux blessures reçues lors de leur mission en Somalie, ils demandent à la mission de transition de l'Union africaine en Somalie, ATMIS, d'honorer ses engagements en leur donnant leurs indemnités qu'ils ne reçoivent plus depuis 2018. Ce qui préoccupe ces militaires, c'est que certains d'entre eux continuent d'en bénéficier, ce qu'ils qualifient de deux poids deux mesures. Pierre Gaungu nous en dit plus.
Depuis 2018, les choses ont changé en ce qui est des consultations aux militaires ayant un handicap pour des raisons de mission en Somalie. Selon des témoins parmi les militaires concernés, aucune information officielle sur ce changement n'a été fournie. Notre témoin a été blessé en 2017 dans une embuscade tendue par les Al-Shabaab. Il indique qu'avec ses collègues, ils ont saisi tous les bureaux concernés en vain.
Nous nous sommes adressés au bureau 30 de maintien de la paix. On nous répond que nos dossiers sont perdus. Même au bureau d'Addis Abeba, la réponse est la même. Jusqu'à maintenant, nous n'avons aucune information. Nous avons vraiment besoin de savoir à quel niveau nos dossiers sont bloqués. La MISOM a changé de nom en ATMIS. Nous n'en savons alors si quand le nom change, tout change. Nous avons besoin de connaître où s'adresser. Nos familles dépensent beaucoup, surtout pour les soins.
Cependant, certains d'entre eux ont été consultés en 2020 et très peu ont reçu leur dû en ignorant ceux des années antérieures. Ils demandent d'être rétablis dans leurs droits pour le bien de leur famille.
Ce qui est étonnant, il y a peu de militaires qui ont été consultés en 2020 et qui ont été servis avant ceux de 2018. Vous comprenez que c'est inquiétant pour ceux qui sont blessés ou qui sont morts dans cette période. Ils n'ont aucune information. Avant 2018, tout allait bien. Au nom de tous ceux qui sont dans cette situation, nous demandons que nous soyons rétablis dans nos droits parce que nos familles souffrent énormément.
La rédaction de la radio Inzamba Agathe Kakawe a joint le porte-parole de l'armée burundaise, colonel Floribert Biyeleke, mais il s'est réservé de tout commentaire. Du côté de l'Union africaine, en marge de sa visite en juin à Bujumbura, Bankole Adeoye, commissaire chargé des affaires politiques, de paix et de sécurité de l'Union africaine, a promis d'accélérer les procédures légales pour parvenir à indemniser les familles des militaires décédés et des militaires blessés.
Actualité judiciaire, 20 ans de servitude pénale et la peine prononcée par le tribunal de grande instance de Lutana hier jeudi contre Jean-Marie Ndayisaba dans un procès de flagrance. Cet habitant du quartier Wilongodi, du chef-lieu de cette province, est accusé de tentative d'assassinat sur son épouse Pascaline Nduimana le 2 septembre dernier. Pascaline Nduimana est dans un état critique et est toujours hospitalisée. Le 2 septembre, une autre femme avait été retrouvée morte dans sa maison au chef-lieu de la province Lutana. Les voisins soupçonnent son mari, un officier de police, de l'avoir tué. Ce dernier n'a jamais été interrogé sur les circonstances de la mort de son épouse. Les défenseurs des droits de l'homme demandent à la justice de Lutana de mener aussi une enquête sur la mort de cette femme. À Kayanza, 5 personnes ont été arrêtées hier jeudi par des agents de service national de renseignement. Des sources sur place révèlent qu'elles ont été appréhendées sur ordre d'un certain Vincent Ndagijimana. Les familles des personnes arrêtées crient à l'injustice et réclament leur libération. Plus de détails avec Aline Dossabé.
Ilan Munda alias Gikusi a été arrêté ce jeudi par des agents de transmission d'un certain Vincent Ndagijimana. Après avoir tabassé cet homme, il a été conduit au bureau du service national des renseignements à Kayanza par le même Vincent Ndagijimana, investisseur et chef des extraditions des minerais en commune Kabarore. Il est reproché de livrer des informations selon lesquelles Vincent Ndagijimana menaçait de faire du mal à toute personne qui dénoncerait des crimes qu'il a commis en commune Kabarore. Au cachet des services de renseignement en province Kayanza, M. Ilahumunda y a rejoint 4 autres hommes arrêtés sous le même ordre. Parmi eux, Charles Mbonangira, un agri-éleveur de la province Kayanza. Selon nos sources, les 5 hommes sont poursuivis parce qu'ils ont essayé de conseiller Vincent Ndagijimana de ne pas continuer à commettre des forfaits en commune Kabarore. Charles Mbonankhira et 2 autres hommes, dont Gikusi et Bamanzi, ont été transférés au service national des renseignements à Bujumbura en début de l'après-midi de ce vendredi. 2 autres détenus ont été relâchés selon les mêmes informations. Le 30 septembre de l'année en cours, 2 femmes originaires de la commune Kabarore avaient soulevé la question de leurs époux emprisonnés sous les ordres de Vincent Ndagijimana. Les femmes ont accusé les autorités locales de ne pas intervenir pour régler l'affaire. C'était lors de l'émission publique des porte-paroles du gouvernement et des ministères à Kayanza. Les familles des détenus plaident pour le relâchement des leurs jugés victimes d'une injustice. La rédaction de la radio Inzamba n'a pas pu joindre au téléphone le chef de renseignement à Kayanza pour qu'il dise à l'opinion les raisons qui sont derrière ces emprisonnements.
Santé animale, pour clore ce journal, 70 porcs sont déjà morts suite à une maladie non encore identifiée. 116 autres ont été atteints par cette maladie depuis le début de ce mois d'octobre sur certaines collines du pays. Déclaration faite ce vendredi par le directeur général de l'élevage, Serge Ngurunziza, fait savoir que le commerce des porcs ainsi que leur abattage sont interdits dans toutes les localités où cette maladie est signalée. On écoute Serge Ngurunziza, le directeur général de l'élevage.
Cette maladie a été rapportée sur les collines de Mirango, en province Bururi, Kibimba, en province Tega, Kigama, en province Moyinga, et Nyagasaka, en province Rumonge, où 18 exploitations ont enregistré 116 cas de 70 sont morts. La maladie a été signalée également sur les collines Mibanda et Gahinda de la province Rumonge, où il a été rapporté 11 morts. Certains animaux présentaient des signes d'incoordination motrice. La mort survient dans la majorité des cas au bout de 3 à 5 jours après la manifestation des signes cliniques. Le traitement symptomatique des animaux se trouvant dans les porcheries affectées est en cours et va se poursuivre. Des médicaments nécessaires ont été dépêchés sur le terrain. Nous demandons aux éleveurs des porcs d'alerter rapidement les agents des services vétérinaires les plus proches dès qu'ils constatent un animal malade. En outre, les éleveurs sont priés de prendre régulièrement la thermométrie de leurs animaux et de signaler immédiatement tout animal hyperthermique. Les éleveurs de porcs sont priés d'abreuver régulièrement les animaux, de les mettre à l'abri de la chaleur et les asperger d'eau pendant les heures de forte chaleur. Comme les résultats de l'examen préliminaire montrent qu'il ne s'agit pas de la peste porcine africaine, le rejet du porc ou la maladie de Jeski, nous recommandons au service technique de BPAE, en collaboration avec l'administration, de prendre les mesures d'interdiction du mouvement, abattage et commerce des porcs uniquement dans les zones administratives affectées.
Ainsi se termine cette édition. Merci de l'avoir écouté. Bon week-end à tous. Au revoir.